Dans une guerre commerciale, a priori, personne ne peut sortir gagnant. C'est en substance ce qu'ont répondu hier plusieurs représentants européens à Donald Trump qui envisage de taxer l'acier importé aux États-Unis à 25%, l'aluminium à 10% la veille. La démission de Gary Cohn, conseiller économique à la Maison-Blanche opposé à ce protectionnisme américain, avait renforcé les inquiétudes. Quelles peuvent être les conséquences de ce protectionnisme sur le marché mondial? Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous êtes directeur du CEPI, Centre d'expertise et de recherche sur l'économie mondiale. Alors, dans quelle mesure le protectionnisme est toujours forcément mauvais ?
La guerre commerciale dont on parle là, la raison pour laquelle on dit que ça ne profite à personne, c'est que ça crée beaucoup plus de coûts que qu'on ne peut en espérer de bénéfices. Pourquoi des coûts ? Parce que de l'inflation, ça renchérit les consommations intermédiaires, notamment les consommations finales aussi. Ça perturbe les chaînes d'approvisionnement. Ça introduit beaucoup d'arbitraires politiques dans la gestion de l'économie. Crée beaucoup d'inefficacité, disons, et de coûts qui vont se répartir. Qui plus est, je pense, pour l'économie américaine, clairement, à un moment où ça n'est pas adapté, mais le problème est plus général, c'est-à-dire que c'est une source d'inefficacité importante.
Alors, si vous dites ça, c'est parce que vous imaginez que des barrières douanières à l'entrée vont permettre aux producteurs américains, là, en l'occurrence, d'aluminium, par exemple, de renchérir leurs coûts et d'éviter par exemple de coûteux gains de productivité puisqu'ils auront en quelque sorte une rente de situation, c'est ça ?
Oui, c'est ce qu'on constate de façon régulière. C'est pour ça que toute l'économie politique du protectionnisme est étroitement liée à la recherche de rente par des industriels qui voudraient augmenter leurs profits. Ce que l'on constate quand il y a des mesures comme celles qui viennent d'être annoncées par Donald Trump de façon la plus immédiate et la plus directe, c'est la hausse des cours des actions des entreprises qui sont directement protégées et la baisse des autres, soit dit en passant.
Ce qui signifie que ça n'a pas forcément d'inconvénients boursiers, ce que vous venez de dire.
Ça profite
à Wall Street, en tout cas ça profite aux entreprises qui bénéficient de ces protections-là. Mais si vous décidez politiquement de protéger un secteur parce que vous considérez que ce secteur est un secteur stratégique, vous décidez par exemple que l'Amérique ne doit pas être tributaire de tel ou tel pays dans sa production d'aluminium ou d'acier, ça c'est envisageable ?
Les leçons de l'histoire et de l'analyse économique à cet égard, c'est que quand on se lance dans cette voie, d'une part, on se retrouve prisonnier des lobbies, c'est-à-dire on protège un secteur et on est prisonnier ensuite de cette protection parce qu'à chaque fois qu'on veut essayer de la supprimer, les lobbies crient au loup. Hein, il y a beaucoup de précédents de ça. Un autre élément important et assez bien identifié, c'est que ça a tendance à limiter l'effort d'innovation et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on se retrouve prisonnier parce qu'au fur et à mesure que le secteur est protégé, il devient moins efficace par rapport à ses concurrents internationaux et donc il peut plus supporter de se voir retirer la protection.
Mais sur la question des secteurs qui sont considérés comme stratégiques, par exemple, aujourd'hui, les microprocesseurs sont tous chinois. Le fait de dépendre de la Chine pour quelque chose d'aussi essentiel, ça n'est pas forcément quelque chose de rassurant. Est-ce qu'on ne peut pas se dire la même chose que Donald Trump sur l'acier, l'aluminium, sur un certain nombre de produits, de matières premières ?
Alors, plusieurs choses. D'une part, les microprocesseurs, ils sont pas tous chinois. C'est un des secteurs dans lequel les États-Unis restent présents et c'est une grosse bagarre, d'ailleurs, économique. Deuxième point, cette histoire de sécurité nationale dans ce dossier, c'est une plaisanterie, c'est une mauvaise foi absolue. Le département d'État lui-même, interrogé dans le cadre des rapports dans cette enquête, a dit non, il n'y a pas de préoccupation de sécurité nationale sur l'acier et sur l'aluminium. Donc, c'est un prétexte à ce que eux appellent lutte contre le commerce déloyal.
Alors, un prétexte, mais un prétexte politique. On peut pas non plus critiquer un homme politique lorsqu'il veut faire de la politique.
Alors, c'est un peu l'essence du problème ici. C'est-à-dire que ces mesures sont une façon clairement de signifier de la part de l'administration Trump, nous faisons de la politique commerciale sur une base seulement politique. Or, à quoi sert le système commercial multilatéral tel qu'il existe ? À s'entendre sur des engagements, des règles qui font qu'on puisse gérer les tensions commerciales, non pas sur la base du rapport de force politique, mais sur la base de règles et d'applications de texte.
Alors, en tout cas, c'est une entorse au système de l'OMC. Est-ce que c'est une entorse qui est de nature, Sébastien Jean, vous qui dirigez le CEPI, qui surveillez ces échanges internationaux, est-ce une entorse qui est de nature à rendre ce système caduque ?
C'est une menace, ça fait peser une menace grave sur ce système. D'une part, pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire clairement le fait de dire d'avoir une approche purement politique. D'autre part, c'est un dossier beaucoup plus important que ce qu'on a connu précédemment. Là, il s'agit d'une masse de 50 milliards de dollars d'importations américaines. Et puis d'autre part, c'est assez révélateur de l'évolution politique de la Maison-Blanche. C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure de la démission de Gary Cohn. Là, au fond, ce sont les tenants du nationalisme économique qui prennent le dessus. Ça augure mal de la suite, sachant qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux. Hein. Il y a une enquête, notamment, il y a une enquête diligentée pour ce qui est violation présumée des droits de propriété intellectuelle par la Chine, dont Donald Trump a dit et répété qu'ils allaient frapper fort. Il ne faut pas s'attendre à ce que la Chine reste sans réaction.
Mais là aussi, du côté du président, et pas uniquement du président Donald Trump, on dit que la Chine ne se prive pas pour violer les droits de propriété intellectuelle.
C'est, je crois, largement justifié. Le problème, c'est qu'en fait, l'approche qui est prônée par les Américains, c'est ce rapport de force politique, cette série de bluffs, de pressions, etc., son nature à faire dériver l'organisation des relations commerciales vers justement quelque chose basé sur des traités, des engagements, depuis ça, vers une situation où le rapport de force politique domine.
Sébastien Jean, comprend par exemple l'industrie automobile, qui est un secteur clé pour les États-Unis, à l'aide de mesures qui relevaient du protectionnisme déguisé, parce qu'on n'est pas obligé de faire des taxes douanières, il suffit par exemple de faire des normes et d'inventer des normes un peu fantaisistes ou un peu particulières à un marché. C'est ce que les États-Unis ont fait pour leur industrie automobile. Ils ont aujourd'hui une industrie automobile qui est à nouveau importante, qui emploie. Est-ce que du coup ça ne se justifie pas un peu ?
Moi, je dirais que les mesures auxquelles on est en train d'assister, elles sont complètement contre-productives par rapport à ces questions. Il y a effectivement des problèmes très graves qu'il faut essayer de résoudre, les surcapacités dans l'acier, effectivement la protection des droits de propriété intellectuelle, la façon dont la Chine essaie de s'approprier des technologies étrangères. Mais ça, comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, en essayant d'avoir une approche coordonnée entre alliés. Exactement le contraire de ce qui est fait ici, hein, parce que les mesures qui sont prises vont d'abord toucher le Canada et l'Union européenne, sauf s'il y a des exemptions, et ensuite en ayant une négociation politique sur ces points. Non pas l'affrontement qui est annoncé là, alors évidemment il y a une part de bluff, hein, mais je pense que justement il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut, disons, rester autour du respect des engagements pris et puis d'une négociation politique pour les revoir.
Mais sur l'industrie automobile, vous êtes quand même d'accord sur le fait que les présidents américains, alors là en l'occurrence, ça n'est évidemment pas Donald Trump, c'est bien antérieur, ont réussi à ranimer une industrie qui est une industrie importante parce qu'elle emploie beaucoup grâce à des mesures protectionnistes déguisées.
Il y a eu un soutien très fort de l'État américain à l'industrie automobile pour empêcher la faillite des grands constructeurs au moment de la crise. Et effectivement, ça s'est avéré clairement un mouvement qui a été justifié sur la base de ce qu'on a vu ensuite.
Et c'est Barack Obama qui l'a fait.
Oui,
à l'époque on applaudissait. Est-ce que ça n'est pas un peu deux poids deux mesures ? On a applaudi lorsque Obama a fait des mesures protectionnistes et aujourd'hui, eh bien, on flétrit Trump qui fait la même chose.
Je crois vraiment que ce dont il est question aujourd'hui est d'une nature très différente. C'est-à-dire que au moment de la crise, il s'agissait de faire passer une crise transitoire, des très grave, très profonde des constructeurs pour leur permettre de passer ce mauvais pas dans un contexte où on pouvait penser qu'ils étaient viables à long terme. Ici, on est à l'affrontement et potentiellement au risque d'escalade. C'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Et l'étape à venir après, selon vous, Sébastien Jean ?
Rien n'est écrit. Je crois que ça dépend vraiment des réactions que nous aurons. C'est pour ça que, pour ma part, je pense qu'il faut être très ferme, c'est-à-dire clairement signifier aux États-Unis, comme d'ailleurs à la Chine par exemple, que nous, l'Union européenne, nous ne serons pas la variable d'ajustement de leur politique.
Merci Sébastien Jean, vous êtes économiste directeur du CEPI et vous avez notamment publié L'économie mondiale 2018 aux éditions La Découverte.